France Musique. Musicopolis. Louis Véron, de la médecine à la direction de l'opéra. Il existe des talents qui sont doués pour l'organisation et la direction artistique, quel que soit le domaine dans lequel ils exercent. C'est le cas de Louis-Désiré Véron, plus connu comme le docteur Véron, qui a montré ses talents dans toutes sortes de spécialités, les pastilles pour la toux, la création d'un journal et même la direction de l'Opéra de Paris. Commençons par le commencement. Louis Véron, né en 1798, a été élevé, à ce qu'il raconte dans ses mémoires d'un bourgeois de Paris, rue du Bac, au fond d'un magasin de papeterie. Ses parents sont des gens modestes qui réussissent à se faire un petit pécule en se privant de tout et qui lui inculquent une sévère économie domestique pleine de prudence et de bon sens. Grâce à quelques appuis, son père l'inscrit à l'école de médecine, où il va devenir externe, interne, puis passer sa thèse en 1823. Le jeune médecin s'installe et il ouvre un cabinet rue Caumartin, dans le 9e arrondissement. Très vite, il s'ennuie, il s'arrête. Il fréquente la Société royale des bonnes lettres, où il est professeur de physiologie. Il écrit la revue politique du lundi dans le journal La Quotidienne. Il s'associe avec un pharmacien de son quartier pour vendre une pâte pectorale balsamique pour laquelle il invente la publicité médicale. Le docteur Véron est certainement d'un naturel aimable et du genre à se faire facilement de nouvelles connaissances. Petit, il allait tous les jours chercher le journal des débats pour son père et il dévorait ses articles préférés sur le chemin du retour. Grâce à son travail pour La Quotidienne, puis pour Le Messager des Chambres, il est en contact avec de nombreux hommes et femmes de lettres. Il décide de fonder lui-même un journal qui s'appellera La Revue de Paris et qui comptera parmi ses plumes, entre autres, Jules Janin, Sainte-Beuve, Mérimée, Georges Sand, Alfred de Vigny ou Victor Hugo. Vous voyez qu'il avait fait des connaissances utiles. Bien sûr, le journal se vend tout de suite très bien. Si sa revue de Paris marche aussi bien, c'est que le docteur Véron s'astreint à aller rendre visite à ses auteurs. Chaque matin, il fait le tour de Paris. Il bavarde et discute avec eux de divers sujets. Il les convainc d'écrire des articles pour lui. Il les relance, les motive, ne les lâche pas d'une semelle. Disons aussi qu'il sait choisir ses collaborateurs. Depuis longtemps, raconte-t-il, je faisais comme plus tard à l'opéra. J'écoutais et j'étudiais à l'avance mes ténors, mes barytons et mes basses-tailles. Les premiers ténors en littérature, c'est-à-dire ceux qui charment et qui émeuvent, sont aussi rares dans les journaux que sur nos théâtres lyriques. En 1831, le docteur Véron, directeur de la Revue de Paris, a 33 ans. Il a une plume alerte, il connaît beaucoup de monde à Paris dans les milieux artistiques et même dans la banque. Or, à cette époque, début de la monarchie de Juillet, règne de Louis-Philippe, l'Opéra de Paris ou Académie royale de musique est dans une situation financière catastrophique. Peu de recettes, des dépenses excessives. On monte peu de grands ouvrages et la haute société a pris l'habitude de venir au spectacle gratis. Au début de 1831, le ministre de l'Intérieur cherche un directeur entrepreneur qui puisse reprendre l'opéra à sa charge. Dans ses mémoires d'un bourgeois de Paris, le docteur Véron raconte qu'on l'a présenté comme candidat pour assurer la direction de l'opéra. Il hésite d'abord à se charger d'un théâtre abandonné du public. Puis il se dit « La révolution de juillet est le triomphe de la bourgeoisie. Cette bourgeoisie victorieuse tiendra à trôner, à s'amuser. L'opéra deviendra son Versailles. Elle y accourra en foule prendre la place des grands seigneurs et de la cour exilés. » Finalement, ce projet de rendre l'opéra tout à la fois brillant et populaire lui paraît avoir de grandes chances de succès après la Révolution de Juillet. Pour faire valoir sa candidature auprès du ministre, il lui expose qu'une direction brillante de cette institution est d'une grande importance politique. Il faut, plaide-t-il, que l'étranger soit attiré à Paris par la bonne exécution de chefs-d'œuvre de musique et qu'il trouve les loges remplies par une société élégante et rassurée. Il faut que les succès et les recettes de l'opéra soient un démenti donné aux émeutes.
Oh!
Le docteur Véron a l'appui d'un banquier qui apporte sa caution à l'entreprise. Il est donc accepté pour diriger l'opéra et il signe un cahier des charges drastique. Article 1er, l'administration de l'Académie royale de musique sera confiée à un directeur entrepreneur qui l'exploitera pendant 6 ans à ses risques, périls et fortunes. Suivent une trentaine d'autres articles qui définissent tous les devoirs de sa charge et la diminution de sa subvention. Dès le 1er mars 1831, Louis Véron s'installe dans son bureau. Le lendemain, on donne la Somnambule, ballet de Hérold, et le Contori de Rossini. Louis-Désiré Véron s'est donc engagé à diriger l'Opéra de Paris à ses risques, périls et fortunes. Il connaît la maison de l'extérieur pour avoir assisté à moult soirées et avoir écrit quelques articles dans les journaux. Mais à présent, il doit faire connaissance de l'intérieur. Il me fallut, écrit-il dans ses mémoires, me recueillir et me demander comment j'allais m'y prendre pour diriger l'opéra. L'anatomie crée des méthodes, établit des classifications pour l'étude du corps humain. Elle étudie les os, les muscles, les nerfs, les vaisseaux sanguins, les viscères. Pour administrer l'opéra, me dis-je, il faut aussi avoir recours à la méthode et aux classifications. J'admis d'abord trois grandes divisions, le service de la scène, le service de la salle et le service de la comptabilité générale, en un mot, l'administration. Alors que le docteur Véron vient de commencer son mandat, les soirées continuent à l'opéra dans la grande salle de la rue Le Pelletier, comme si de rien n'était, avec toujours la succession d'opéras et de ballets, du très ancien répertoire comme Orphée de Gluck, en passant par ceux qui datent de la Restauration, de Le Sueur, Kreutzer, Lebrun, jusqu'aux créations des dernières années. Moïse, Guillaume Tell et le Contori de Rossini, la Somnambule d'Hérold, Le Dieu et la Bayadère d'Aubert et bien sûr la Muette de Portici. Dans le bâtiment, Louis Véron visite tout. Il convoque tous les chefs de service. Il demande ce que chacun peut réaliser comme économie. Ayant compris qu'il faudrait diminuer les salaires des musiciens de l'orchestre et des choristes, il les rencontre un par un pour leur annoncer la nouvelle. Il étudie aussi minutieusement toutes les entrées et les recettes pour comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Très vite, il s'intéresse à Robert le Diable, qui a été commandé à Scribe et Meyerbeer par son prédécesseur.
«
Lorsque le docteur Véron prend la direction de l'opéra, Meyerbeer a achevé sa partition pour Robert le Diable sur le livret de Scribe. Véron relit tout attentivement et il demande au compositeur de changer le rôle de Bertram. Meyerbeer l'a écrit pour un baryton, Véron pense que le personnage serait mieux incarné par une basse et il insiste pour que Meyerbeer fasse le changement. Tout le monde s'en félicitera. Robert le Diable est mis à l'étude dès l'arrivée du docteur Véron à la direction de l'opéra. C'est Duponchel qui est chargé de la mise en scène et Cicéry des décors. Véron leur a ouvert un crédit sans limite. Duponchel se surpasse, notamment pour le troisième acte, dans la scène des nonnes sortant de leur tombeau. Véron organise une répétition spécialement pour Meyerbeer. « Je m'attendais, écrit-il, à ses applaudissements, et j'espérais m'être rendu digne de sa confiance. » « Tout cela est très beau, me dit le maestro, d'un air presque fâché. Mais vous ne croyez pas au succès de ma musique, vous cherchez un succès de décoration. » « Le génie de Monsieur Meyerbeer, conclut Véron, est modeste et défiant. » En même temps qu'il fait répéter Robert le Diable, le docteur Véron a fait faire des travaux dans la salle de la rue Lepelletier, dont la décoration était quelque peu vétuste et désuète. Il rouvre avec une salle splendide et devant une assemblée nombreuse. Comme on ne peut pas assurer de répétition les jours de représentation, c'est-à-dire 3 jours par semaine, tout prend beaucoup plus de temps. Mais Véron est là, qui veille à tout, qui surveille la confection des décors, des costumes, les séances avec le chœur et les solistes. Il arrive à monter deux autres petits ouvrages en attendant Robert, et il est sur tous les fronts. Il fait, comme il dit, son éducation pratique de directeur d'opéra. Il demande que les décors soient mis en place avant d'être peints, pour tout vérifier. Il ne faut pas, par exemple, qu'une porte par laquelle doivent entrer les chœurs soit trop étroite. De même, une scène intime ne doit pas avoir lieu dans un décor trop large. Il faut aussi veiller à ce que les décors de grande taille soient précédés par des plus petits, pour qu'on ait le temps de tout installer derrière. Bref, Véron doit être au four et au moulin. Pour monter Robert le Diable, le docteur Véron a pris soin de chaque moindre petit détail, y compris le cachet des deux trompettistes qui menaçaient de ne pas jouer si on ne les augmentait pas, et celui de la soprano qui, elle, menaçait de prendre un congé de 2 mois juste après la première. Des soins qui ont payé. La création de l'opéra de Meyerbeer en novembre 1831 est une grande réussite, comme le sera toute la période de la direction de Louis Véron. Il conservera son poste jusqu'en 1835 et il restera dans la mémoire de la maison comme l'un des deux seuls, avec Lully, à avoir fait des bénéfices à la tête de l'Académie de musique. Le final de l'acte 5 de Robert le Diable de Giacomo Meyerbeer, avec dans la distribution Samuel Ramet en Bertram, Michel Lagrange en Alice, Alain Vanzo en Robert, l'orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, dirigé par Thomas Fulton. C'est un enregistrement France Musique du 29 juin 1985. Le programme, la réécoute et le podcast sont sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Vous pouvez aussi aller consulter la page Musicopolis l'intégrale pour retrouver toutes les précédentes émissions. Notre petite équipe était composée aujourd'hui de Benjamin Vignal pour le mixage, Clément Diaz pour les recherches et le site et Philippe Petit pour la réalisation.
À réécouter sur francemusique.fr.